Vous entendez les mots d'amour murmurés à l'autre bout du pays. Les sanglots conversent dans un autre quartier de la ville. Vous voyez une femme quitter son mari et un mari tromper sa femme. Vous entendez le sanglot du monde. C'est votre paradoxe, votre responsabilité, votre contrat. Vous ne pouvez pas vous y soustraire et vous n'avez d'autre choix que de continuer. À écrire ? Oui, quoi d'autre ? Écrivez et nous n'oublierons pas. Écrivez et nous ne serons pas oubliés. Écrivez parce que la mort n'est qu'un simple synonyme de l'oubli. Jon Kallman Stephenson est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son livre en traduction française intitulé « Ton absence n'est que ténèbres ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Mégas.
Og vandra manna margum glækjum mildi Guðs að þú ert ekki dauð. Þá vappa skaltin í víði líð, í víði líð og víði líð og vera þar síðan alla tíð, alla þína tíð. Ef þú kúrir ein í horni, engi þér sinnir þá grætur þú lát. Og fáir þú matinni kaldan og klénan og kjötið að sé bæði vont og rátt. Þá vappaðu inn í víði hlíð, í víði hlíð og víði hlíð. Og vertu þar síðan alla tíð, alla þína tíð. Ef börnin í þig ónóttum reyta, æskirðu liðsinnis bugð af þraut. Og ef bóndina segir bless og farin, þá búið að tekur að vanta graut. Þá vappaðu inn í víði líð, í víði líð og víði líð og vertu þar síðan alla tíð, alla þína tíð. Ef enginn þér sýnir samúð neina en sorgirnar hlaðast að fyrir því. Og ef enginn hræða til þín tekur, til þín ég sýnir við mót hlý. Þá vappaðu inn í víði hlýð, í víði hlýð og víði hlýð. Og vertu þar síðan alla tíð, alla þína tíð. Víði hlýð eru veður blíð, vondir kallar þeir sjást ekki þar. Og ótal stúlkur stekkvandi til þín, stefna og færa þér knókma þar. Já, hófa loppaðin í víði hlýð, í víði hlýð og víði hlýð. Og vertu þar síðan alla tíð, alla þína tíð. Þær votta þér samúð, votum hvörmum og vítur samþykja á bakkið íst og spilt. Og sína þér góðvild í einu og öllu og eyrun sperrað á grætur þú milt. Og stíl, já, val og baðin í víði hlýð, í víði hlýð og víði hlýð. Og vertu þar síðan alla tíð, alla þína tíð, alla þína tíð.
Combien de temps avez-vous mis à naître, Jón Kalman Stefánsson.
Je suis encore en train de naître. Et je crois d'ailleurs que je continuerai à naître jusqu'au moment où je mourrai. Et donc, comme je ne sais pas à quel moment je vais mourir, fort heureusement d'ailleurs, je suis incapable de vous dire combien de temps ça m'a pris de naître.
Vous avez quitté l'école très jeune, je crois vers l'âge de 15-16 ans, et vous avez fait plein de petits boulots. Pêcheur, ouvrier, aussi d'autres petits boulots. Lequel vous a le plus plu, Jón Kalman Stefánsson?
J'ai arrêté l'école après la scolarité obligatoire, à la fin de ma scolarité obligatoire, j'avais 15 ans. J'ai repris l'école 3 ans plus tard, mais pendant ces 3 ans, j'ai fait toutes sortes de boulots. J'ai travaillé dans le poisson, comme maçon, dans des abattoirs et toutes sortes de boulots de ce genre. Tous ces emplois pouvaient être à la fois très intéressants, mais aussi ils avaient évidemment des côtés très ennuyeux. Surtout qu'à l'époque j'avais 15, 16, 17 ans et que la seule chose qui m'importait c'était d'être en vie. J'avais envie d'être vivant et travailler dans le froid, l'humidité, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus intéressant, de plus passionnant. Mais comme j'étais un peu perdu et que j'étais un peu perdu dans ma vie, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Disons que j'ai travaillé, j'ai fait ces petits boulots jusqu'au moment où j'ai trouvé où je voulais aller.
Et vous avez travaillé comme bibliothécaire parmi des livres.
Oui, ça c'était plus tard. Je me suis mis à travailler en bibliothèque alors que j'avais commencé à écrire et j'avais besoin d'un travail, d'un emploi parallèle pour vivre, tout simplement. C'était un emploi extrêmement mal payé, mais au moins j'étais entouré de livres et on peut envisager ça comme un bonus. Ce qui est intéressant aussi quand on travaille dans une bibliothèque, c'est qu'on peut, disons, influer sur le goût des lecteurs.
Les livres sont-ils vos amis, Jón Kalman Stefánsson?
Oui, ce sont mes amis, ce sont mes compagnons et ils m'accompagnent à travers la vie. Et par exemple, à chaque fois que je pars en voyage, une des choses que je dois définir avant mon départ, c'est quel livre je vais emporter. Pour le voyage de 10 jours que j'effectue en France en ce moment, j'ai dû mettre à peu près 1 minute à choisir mes vêtements. Par contre, j'ai mis 1 heure à choisir mes livres. Donc j'ai emporté 10-15 livres. Je sais évidemment que je ne vais pas tous les lire, mais je suis content de les avoir pendant le voyage pour m'accompagner.
Ils sont donc de vrais compagnons. Que veut dire être en vie pour vous, Jón Kalman Stefánsson?
Je crois qu'il n'y a pas de plus grande question que celle-là. Évidemment, je pourrais vous dire qu'écrire, c'est ce qui me donne un but dans la vie.
Disons,
je sais que si je ne pouvais pas écrire, je serais très malheureux. Mais on vit également pour sa famille, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes 2 chats et pour mon chien. Et on vit aussi pour pouvoir avoir le plaisir de prendre une bonne bière froide au soleil. Et aussi, espérons-le, pour avoir un peu d'influence sur le monde par le biais de ses écrits.
Si j'ai bien compris votre itinéraire, Jón Kalman Stefánsson, l'écriture vous est arrivée tardivement et vous est arrivée comme une sorte de coup de foudre. Comment et pourquoi ?
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, J'ai occupé toutes sortes d'emplois à partir de 15 ans, pendant 3 ans, parce que je ne savais pas trop quel était le but de ma vie. Et quand j'ai eu 18 ans, la télévision islandaise a diffusé l'histoire de l'univers de Carl Sagan. Carl Sagan, c'est un de ces scientifiques de génie qui sont capables de vous parler de choses extrêmement complexes en les rendant simples et accessibles. C'est un homme qui est capable de vous parler des planètes, des galaxies et de sciences avec une telle passion qu'on ne peut pas s'empêcher d'être soi-même passionné par son discours. Et après avoir vu sa première émission, j'étais convaincu que j'allais devenir astronome. Je me suis donc inscrit dans la filière scientifique au lycée à 19 ans. Et j'ai été convoqué dans le bureau du directeur du lycée qui m'a demandé si j'avais commis une erreur en m'inscrivant en filière scientifique parce que j'avais eu, disons qu'à l'époque de la troisième, classe de troisième, j'avais eu 2 en mathématiques. Disons que j'avais 2 en mathématiques et 10 en optimisme. Donc on m'a laissé m'inscrire en filière scientifique, ça allait bon an mal an, et puis 2 ans plus tard, le prof d'islandais nous a demandé d'écrire une nouvelle. Donc voilà, c'était juste un devoir scolaire, purement scolaire, on était simplement censés, tous les élèves de la classe étaient censés écrire une nouvelle et la rendre le lendemain. Donc, je me suis assis et j'ai commencé à écrire. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Dès que j'ai commencé à écrire cette histoire, j'ai eu l'impression de me rencontrer pour la première fois. Et quand j'ai commencé à écrire, tout ce qui était... qui relevait un peu de l'intranquillité à l'intérieur de moi, quelque chose comme un bourdonnement dans les oreilles. Ça s'est transformé en flux qui est venu alimenter mon stylo, et tout à coup j'ai compris pourquoi j'existais. Je sais que ce discours peut sembler un peu religieux, mais ce n'est pas du tout ça. Disons que c'était simplement un moment magique à partir duquel j'ai su où j'allais, où j'ai compris que j'étais écrivain, poète et non pas astronome. Mais en réalité, les deux choses, les deux professions sont parentes, puisque les astronomes partent en quête de nouveaux mondes, de nouveaux univers. Et moi, je fais exactement la même chose dans mes écrits.
Et nous, en France, Jon Kalman Stefansson, on vous a découvert en 2010 avec la traduction en français de votre premier ouvrage intitulé Entre ciel et terre, qui a été un véritable coup de foudre, un nouveau coup de foudre. Pour un écrivain étranger, ensuite ça a continué, l'amour, avec La tristesse des anges, Le cœur de l'homme, D'ailleurs les poissons n'ont pas de pied, À la mesure de l'univers. L'avant-dernier titre, Asta, a été un immense succès en France. Quand on vous lit, on part justement dans le cosmos. Ce n'est pas pour rien que vous dites que vous aviez failli être astronome. Êtes-vous un raconteur d'histoire et est-ce que l'écriture est pour vous une forme de voyance ?
Je pense que je suis seulement un écrivain qui écrit des romans, un romancier. Je crois que sans le faire vraiment consciemment, j'utilise en fait toutes les techniques du poème ou de la poésie de manière à élargir l'espace du roman. Parce que le poème abrite un certain nombre de choses qui échappent à notre compréhension. Quelque chose d'illogique sur lequel on n'arrive pas à poser le doigt, qu'on n'arrive pas à toucher le doigt. Et si on réussit justement à instiller du poème dans un roman, alors on réussit à écrire un roman qu'on n'arrive pas vraiment à appréhender complètement. Si je réussis ça, alors je suis content.
Je vous propose d'écouter la voix d'un écrivain que... je crois, est très important pour vous. Il s'appelle Thomas Mann. Il va parler du mode de narration de son œuvre. C'est une archive INA du 13 mai 1950, la voix de Thomas Mann.
Je ne suis nullement porté à surestimer le niveau de mon art. Et quand je le compare aux grands modèles vers lesquels, dès ma jeunesse, je levais les yeux, la conscience que j'ai de moi-même est empreinte d'une grande modestie. Je sais bien que mon mode de narration constitue un arrangement extrêmement personnel avec l'art et ne saurait être proposé en exemple. Malgré cela, je pourrais, je crois, quitter cette terre avec le sentiment de lui avoir dispensé quelque joie, quelque sérénité spirituelle, et même dans l'œuvre nécessairement sombre de mes vieux jours, j'espère avoir conservé un peu de cette sérénité d'artiste. Mais si cette œuvre m'est particulièrement chère, cela tient à ce que, pour la première fois, j'ai surpris des larmes dans les yeux de mes lecteurs. Et cela tient aussi au caractère direct et absolu, à la condensation passionnée de toute la somme d'expériences de ma vie et de l'art qui fut mienne, et par quoi ce livre diffère du détachement et de l'ironie qui présentent mes précédents ouvrages.
Nous venons d'entendre la voix de Thomas Mann, une archive qui date de 1950. Comment l'œuvre de Thomas Mann, La Montagne Magique, mais peut-être aussi Tonio Kroger, a-t-elle influencé votre écriture, Jón Kalman Stefánsson?
Le mot influence, c'est un mot très intéressant et je dirais même passionnant en littérature. Parce que parfois, on ne sait pas ce qui est une influence ou ce qui est une parenté. On n'est pas capable de faire la différence. Parfois, et pour des raisons tout à fait diverses, des auteurs, des écrivains refusent de reconnaître qu'ils sont sous l'influence d'autres écrivains. Ou bien, ils se réclament de l'influence d'un tel ou d'un tel parce qu'ils ont envie d'être sous leur influence alors qu'ils ne le sont pas. Et on peut également être sous l'influence d'un autre auteur, tout simplement, sans jamais l'avoir lu, mais tout simplement parce qu'on l'a lu ou qu'on en a entendu parler par d'autres auteurs. Tonio Kruger, ça a été l'un de mes premiers amours quand j'ai commencé, quand je me suis mis à lire vraiment, sérieusement des romans. Je crois qu'en 2 ans, j'ai dû lire ce livre 10 fois. C'est le genre d'œuvre qu'on devrait absolument lire quand on est jeune. Parce que l'auteur vous y explique à quel point ça peut être très difficile d'être jeune et incertain. Quant à La Montagne Magique, c'est une œuvre que j'ai lue beaucoup plus tard et je ne pense pas qu'elle ait eu une influence directe sur moi. Mais Thomas Mann, c'est de toute façon une des montagnes, un des sommets de la littérature mondiale et nécessairement toutes les montagnes ont une influence sur les paysages environnants.
Du paysage, il est beaucoup question à l'intérieur de la totalité de vos livres traduits en français, Jón Kalman Stefánsson. Des paysages géographiques de votre pays, l'Islande, mais aussi des paysages de l'âme. Vous êtes à la fois un psychanalyste, un voyant, un maître en illusion, et vous aimez bien tisser des histoires généalogiques extrêmement compliquées. Comment commence l'écriture d'un roman pour vous? Est-ce que ce sont les personnages ou est-ce que c'est le paysage géographique qui va être la source d'inspiration?
Je dis parfois, même assez souvent, que ma malédiction et ma bénédiction, c'est une forme d'amnésie. C'est que je souffre d'une forme d'amnésie. Et quand j'arrive à la fin de l'écriture d'un roman, en général, il s'est passé tellement d'événements entre deux dans l'écriture du roman que la plupart du temps, j'ai oublié comment j'ai commencé. Mais je pense que quand je commence l'écriture d'un roman, ce qui préside au début, c'est plutôt une forme de sentiment, de sensation qu'autre chose. Comme quand on compose une musique, par exemple, au piano, en fait, on essaie de trouver le bon ton par une foule de tâtonnements, par une série de tâtonnements. Et puis, quand j'ai commencé à écrire le roman, évidemment que j'ai des idées, mais ces idées se transforment au fur et à mesure que j'essaie de les écrire. Parce que dans le processus de l'écriture, surgissent constamment des personnages ou des événements que je n'avais pas prévus. Ce qui fait que je passe mon temps à échafauder des plans, mais ça ne fonctionne jamais, ça ne marche jamais. Je peux donc dire que je n'ai jamais vraiment écrit le livre que je voulais écrire. Et j'espère bien que je réussirai jamais, parce que j'écris ce qui naît pendant le processus de création.
On peut dire que la solitude et la recherche de l'amour avec un grand A constituent deux thématiques assez obsessionnelles à l'intérieur de votre œuvre, Jon Kalman Stefansson. Et je me demande si c'est le mode de vie, l'absence de lumière pendant de nombreux mois dans votre pays, l'Islande, ou si c'est le paysage qui alimente ce désir de parler de ces deux thématiques.
J'adore l'obscurité, les ténèbres, la nuit. Ma saison préférée, en fait, c'est l'automne, c'est-à-dire à partir du moment où il se met, où le jour se met à décliner et on arrive en décembre où on a l'impression d'être dans l'obscurité totale, presque comme dans une caverne. L'obscurité ne m'a jamais rendu ni triste ni solitaire. Disons qu'elle m'apporterait plutôt de l'inspiration que de la solitude. Je crois par contre que la solitude, c'est quelque chose qui vit en l'homme ou en l'être humain dès qu'il prend conscience de son existence, de sa propre existence. Et je crois que ça fait partie des grands thèmes de la littérature à côté de la peur de la mort et de la lutte contre le temps ou les ravages du temps. Parfois, j'ai l'impression réellement que j'écris contre la mort, que j'attaque. Je pars à l'attaque de la mort en écrivant. Je sais bien que je ne vaincrai pas la mort, mais si on n'essaie pas, on trahit la vie. Et si on a envie de changer le monde, oui, il faut avoir 10 sur 10 en optimisme.
En tout cas, l'Islande, je crois, est un des pays au monde qui a le plus de bibliothèques, de lectrices, de lecteurs. Tout le monde lit en Islande. Ce n'est pas un hasard si vous avez été bibliothécaire avant de devenir l'écrivain que vous êtes aujourd'hui, Jon Kalman Stefansson. Je voudrais vous faire écouter la voix, j'imagine que c'est une amie, la voix de Odur Ava Olafsdottir, qui est, comme vous, islandaise, qui a obtenu le prix Médicis étranger l'année dernière pour un très beau livre intitulé « Miss Islande ». Elle va parler du volcanisme, de la nature et de l'Islande. C'était à l'heure bleue et c'était le 21 novembre 2019.
Je fais le parallèle entre la création en art, en écriture et dans la nature. L'Islande étant le pays le plus volcanique du monde, donc il y a le volcanisme qui est sous-jacent tout au long des pages. Donc c'est la création dans la nature, toujours renouveler la naissance. Et l'Islande, c'est comme un bébé, un nouveau-né, tout nu, si on compare l'île à la France. Même maintenant, en novembre, c'est ouvert.
Parce qu'il pleut tout le temps.
Ça dépend. Ça, le temps change plusieurs fois par jour. Hein. On ne sait jamais. Il faut s'adapter. C'est une île, il y a du vent qui souffle. Oui, on pourrait dire qu'elle est en nous, elle forge notre caractère, mais la nature n'est jamais juste un décor, un beau décor dans mes romans. Ça a toujours un sens avec le, ça dépend du contenu. Dans l'exception, c'était surtout le temps. C'était un roman qui parlait justement d'une œuvre d'art comme un espace organisé. Et puis la vie chaotique qui nous prend au dépourvu. Donc là, c'était le temps qui correspondait à cette idée.
L'Islande est-elle un bébé, comme vient de le dire notre amie Ava Ólafsdóttir? Et est-ce que la vie est vraiment chaotique en Islande, Jón Kalman Stefánsson?
La vie est partout chaotique. Et sans doute que l'un des problèmes principaux de l'être humain, c'est justement qu'il s'envisage comme un être de raison. Mais nous sommes avant tout des êtres de sentiments, et les sentiments, c'est le chaos. Pour ma part, je suis très reconnaissant de cet état de choses, parce que justement, les sentiments, l'être humain étant un être de sentiments, et les sentiments étant le chaos, ça veut dire que ça me donne à moi une source inépuisable pour écrire. Quand on passe en avion par-dessus l'Europe, évidemment, nous, on s'extasie de la beauté et surtout de toute la végétation qu'il y a partout dans ces pays européens. Mais j'ai parfois une sensation d'étouffement en voyant ça, parce que j'ai l'impression qu'on a complètement dompté la nature, qu'on l'a pratiquement étouffée, en fait. Et ce qui me fascine le plus avec la nature islandaise, c'est que en très, très grande partie, elle est complètement indomptée et sans doute indomptable. Et évidemment, ça apporte énormément d'énergie et oui, de chaos. Nous avons par exemple une foule de tremblements de terre et par exemple d'éruptions aussi. Et on a parfois l'impression que la terre nous s'adresse directement à nous, que la terre nous apostrophe. Par exemple, il y a quelques mois, a débuté à côté de Reykjavik une éruption qui a expulsé de la lave vieille de 7000 ans à la surface. C'est-à-dire que ce sont des nouvelles venues de l'enfer, datant de 7000 ans, qui nous arrive sur les bras. Et en fait, ma femme, qui est également écrivaine, Sigríður Hagalín Björnsdóttir, donc or ma femme, a écrit quelques mois avant le début de l'éruption un livre dans lequel elle imaginait une éruption exactement à cet endroit. Et parfois, les écrivains ont justement ce pouvoir phénoménal de convoquer le diable à la surface.
C'est vous le diable alors, Jón?
Non, je ne suis pas le diable. Par contre, un écrivain, un poète, doit être capable de parler autant avec le diable qu'avec Dieu.
Mais vous n'êtes pas un ange non plus?
Non, parce qu'on m'a brûlé les ailes. Mais je vole quand même.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez non pas votre choix musical, Jón Kalman Stefánsson, mais nous avons choisi pour vous plusieurs des musiques que nous allons entendre après avoir lu votre dernier livre, intitulé donc « Ton absence n'est que ténèbres ». Car ce livre vient de sortir, il a une structure narrative très originale, il est à la fois un précis de philosophie, de poésie, d'ésotérisme, d'histoire familiale, d'histoire d'amour, mais aussi un rapport à la musique très vibrant. Avant d'écouter ce premier titre, celui que nous avons choisi, qui est dans votre livre, qui est de Damien Rice, comment pourriez-vous définir votre rapport à la musique ?
Quand j'étais jeune, j'avais aussi envie de devenir musicien. Parce que la musique a toujours été capitale pour moi. J'ai un besoin absolu d'écouter de la musique tous les jours, chaque jour. C'est vraiment une nourriture, c'est quelque chose qui me nourrit. La musique et la littérature, pour moi, ce sont des univers qui se télescopent et qui s'unissent. Et en fait, je puise mon inspiration autant dans la musique que dans la littérature. Il me semble que quand j'écris, et parfois sans doute de façon intuitive ou inconsciente, j'essaie de faire sortir la musique de la langue, de faire ressortir la musique de la langue. Parce que la langue, elle a beaucoup justement de tonalités, de sons, et si on travaille, on peut justement transformer tous ces sons en musique. Il ne s'agit pas simplement des mots eux-mêmes, mais aussi de la forme que j'utilise. Si on utilise la forme appropriée, en tout cas dans mon cas, il me semble que quand j'écris, je réussis à écrire quelque chose qui tiendrait de la symphonie.
Eh bien, nous écoutons, pour ouvrir le bal de votre livre « Ton absence n'est que ténèbres », pour ouvrir le bal de ce livre qui sort ces jours-ci en traduction française « Ton absence n'est que ténèbres », on va commencer à écouter Damien Rice. A lot to understand what's humming. The honey bee, the sting. The little girl with wings. It takes a lot to give to ask. Différents personnages de ce livre extraordinaire qui sort ces jours-ci en France et qui s'intitule « Ton absence n'est que ténèbres » sont musiciens à l'intérieur de tous ces personnages qui hantent ce livre. Il y a des musiciens amateurs, il y a des musiciens qui veulent devenir des professionnels et il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans écouter de musique. Pourquoi ?
Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons à ça. La première, c'est que les romans offrent souvent un reflet de leur auteur. La deuxième raison, c'est que depuis 50, 60 ans, en fait, la musique a tenu une place de plus importante dans la vie des gens, en tout cas ici en Occident. Nous avons tous des chansons qui, dès qu'on les écoute, rallument en nous de vieux souvenirs importants. Et on parle aussi de ma chanson, de notre chanson. Et la musique, que ce soit le pop, le rock, le blues, elle a la capacité aussi d'unir la mélodie et les paroles. Et donc, elle a... sur nous une influence extrêmement profonde et qui s'exerce de diverses manières. Et pour ma part, ça me semble assez naturel, finalement, d'introduire de la musique dans une œuvre qui parle de notre époque et de notre monde. Parce que cette musique, elle est tellement importante, parce qu'elle fait elle représente une part tellement importante de nos histoires personnelles, mais aussi de l'histoire de nos sociétés. Et comme je n'ai jamais réussi dans ma carrière de chanteur ou de musicien, ça me permet également de transformer mon livre un peu en disque, ou bien en liste de chansons qu'on peut trouver sur Spotify.
Eh bien, on va continuer pour l'enchantement. L'enchantement qui va durer et durer, on va continuer après Damien Rice, on va écouter Bob Dylan. Oh,
Monsieur Olson with his gun.
Bob Dylan a une importance prépondérante à l'intérieur de votre livre, le dernier qui vient de sortir, Jon Kalman Stefansson, Ton absence n'est que ténèbres, car au début de ce gros livre, il y a une jeune fille, très jolie, très intelligente, qui vient à la campagne, qui arrive dans un village pour les vacances et qui voit sur un tracteur un homme qui est en train de labourer son champ. Elle trouve le mec très beau, mais surtout elle trouve qu'il est merveilleux, parce que tout en labourant son champ sur son tracteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il écoute Bob Dylan. Donc, un agriculteur qui écoute Bob Dylan en labourant son champ, ça peut être que le grand amour, non ?
Já, og ég syns að Bob Dylan er náttúrulega prýðist dæmi það að hérna
Bob Dylan est évidemment l'exemple parfait du musicien qui a eu une influence retentissante sur notre époque. Et il a le pouvoir de relier des univers différents, comme il le fait par exemple dans cette scène. En même temps, comme je le fais dans cette scène, j'utilise une partie du texte pour extrapoler, c'est-à-dire pour faire naître des idées dans l'esprit du lecteur qui sont légèrement en dehors du texte.
On va continuer à parcourir votre livre extraordinaire qui s'intitule donc « Ton absence n'est que ténèbres » en écoutant Elvis Presley. « Wise men say only fools rush in, but I can't. Falling in love with you. Shall I stay? Alors, ce qui est incroyable dans votre livre, Jon Kalman Stefansson, c'est que les différents personnages, et il y en a à peu près une centaine dans ce gros livre, écoutent tout le temps de la musique. Mais ce n'est pas en raison de l'âge qu'ils ont qu'ils écoutent la musique de leur temps. Pourquoi ?
Oui, bon, chaque personne est différente. Enfin, il y a toutes sortes de gens. Mais la musique doit être réellement sans frontières. Je veux dire réellement sans frontières dans le sens des frontières physiques et géographiques, mais aussi dans le sens des frontières entre les générations. Et c'est très important aussi, à mon avis, que les générations communiquent entre elles en se présentant chacune la musique ou les musiques qu'elles écoutent. Par exemple, Eiríkur, le personnage d'Eiríkur, il introduit le rap dans ce fjord complètement isolé, quoi. Et en fait, pour moi, un bon musicien, il est un peu comme un bon poète ou un bon écrivain, il s'adresse à toutes les générations.
Ou Kanye West.
Vous parliez d'Elvis Presley, donc oui, et de Kanye West, et ce sont des artistes importants. Ce sont des artistes qui tous réussissent à nous toucher de leur manière bien particulière. C'est très important pour chacun, à mon avis, de ne pas rancir dans ses goûts musicaux, de ne pas avoir des goûts musicaux qui sont figés. Les gens qui sont parents d'adolescents ou de jeunes enfants, ou même grands-parents, c'est... une bonne idée pour eux, c'est pas mal pour eux d'essayer d'écouter et de comprendre la musique que leurs enfants écoutent. De la même manière que nous, on a le devoir de les familiariser avec Presley, McCartney et Dylan.
J'ai l'impression quand même que votre chouchou à l'intérieur de votre livre, c'est Paul McCartney quand même, non? Je me trompe?
Paul McCartney, notre
Paul McCartney, c'est évidemment un des plus grands artistes de notre époque.
Vous diriez peut-être poète, non? On va jusqu'à poète avec Paul McCartney, selon vous, Yann? Bob Dylan a eu le prix Nobel de poésie, pas encore Paul McCartney.
McCartney, il n'est pas poète, il est auteur de chansons. Cela dit, quand il chante, en fait, ça n'a aucune importance. L'étiquette que nous lui apposons n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est l'influence qu'il a sur nous, c'est ce qu'il nous fait ressentir.
Eh bien, on l'écoute.
Got the time, the inclination, I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. I don't know where the wind is blowing. Got directions to where I'm going. Nothing certain, that's the only thing I know. Do it now. Do it now. While the vision clear, do it now while the feeling is here. If you leave it too late, it could all disappear. Do it now while your vision is clear. I'm taking the decision that I'm making is the right one, or I'm never gonna know. Got the time, the inclination, I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. So do it now, do it now, while your vision is clear. Do it now, while the feeling is here. If you leave it too late, it could all.
Alors, il n'y a pas que la musique à l'intérieur de ce livre-monde, car c'est un livre-monde que vous signez qui paraît ces jours-ci en traduction française, Yann Kalman Stephenson. Il y a la philosophie de la vie, mais aussi la philosophie des philosophes. Et parmi les philosophes, il y a un personnage qui est une personne aussi, qui est Kierkegaard. Est-ce que Kierkegaard a été un éducateur de votre propre vie, de votre propre rapport à l'existence?
Oui, j'ai lu un peu de Kierkegaard et ça m'a pas mal séduit. mais l'influence qu'il a exercée sur ma vie, elle tient plutôt, surtout, en l'influence qu'il a exercée sur ma tante, qui est une personne très importante dans ma vie. Cette tante, elle a traduit Kierkegaard en islandais et elle est morte, malheureusement beaucoup trop jeune, mais quand elle était vivante, elle me parlait souvent de Kierkegaard. Donc évidemment, Kierkegaard, il a son importance pour le commun des mortels peut-être, mais il est important pour moi particulièrement à cause ou grâce à ma tante, pour des raisons personnelles.
Il y a aussi autre chose de très important à l'intérieur de votre dernier livre, Jon Kallmann Stefansson, c'est la forme. Vous inventez une nouvelle forme romanesque. Vous pulvérisez l'ordre des chapitres. Vous écrasez la linéarité de la fiction. Vous nous emmenez, nous lectrices et lecteurs, dans des dimensions géographiques, généalogiques, poétiques, très différentes. Comment faites-vous ? Et pour essayer de nous accompagner, nous les lecteurs, vous faites des intermèdes. Tout d'un coup, au beau milieu d'un chapitre, eh ben vous faites une citation poétique en caractère gras, et puis hop, le chapitre peut partir ailleurs, avec d'autres personnages, d'autres temporalités, d'autres histoires. Est-ce que la fiction, c'est fini pour le XXIe siècle ?
Oui,
disons que le roman moderne doit avoir grosso modo 200 ans. Et évidemment, il a aussi connu toutes sortes de changements, de transformations au fil du temps, depuis le début de son existence. Je me souviens que quand j'ai commencé à écrire des romans, au début ça allait très mal, ça marchait très mal, parce que justement j'essayais d'écrire un roman classique. Le problème, c'est que la narration romanesque classique, elle ne rime pas avec moi, elle ne fonctionne pas avec moi, ça ne fonctionne pas avec ma manière de penser. Et donc, aussi bien consciemment qu'inconsciemment, je crois que j'ai toujours essayé de trouver de nouveaux moyens, en fait, pour écrire un roman. Je suis convaincu que l'écriture recèle des possibilités absolument infinies. Et tout dépend de la manière dont on s'y prend, dont on réussit à travailler pour en sortir quelque chose. Je peux dire également que j'écris comme je pense.
Runa s'arrête, éteint le moteur et regarde sa sœur avec un sourire. Ekfur se relève, nos regards se croisent et voici, elle peut commencer. Cette fête à laquelle sont conviés tous ceux qui comptent, vivants comme défunts. La bière a eu le temps de refroidir dans le ruisseau. La compilation de la Camarde est fin prête. Il ne nous reste plus qu'à vivre et à demeurer à jamais ensemble. C'est ainsi que se termine votre livre, Jon Kallmann Stefansson. Dernière question. Est-ce à dire que l'écriture, c'est le moyen de faire vivre ensemble les vivants et les morts ?
Oui, je crois que j'ai toujours, en fait, écrit autant pour les défunts que pour les vivants. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais disons que quelquefois, j'espère, oui, c'est plutôt une espérance, qu'un bon texte sera capable de traverser toutes les frontières. Ça vaut aussi pour la musique. Kanye West et Elvis Presley, on les entend aussi de l'autre côté de la vie. Il y a aussi le fait qu'en racontant l'histoire de personnes qui sont disparues, qui n'existent plus, justement, on les empêche de sombrer complètement dans l'oubli. Parce qu'oublier une personne, d'une certaine manière, c'est la trahir. Et l'être humain est vivant aussi longtemps qu'on se souvient de lui. Si nous l'oublions, nous l'exécutons.
Merci infiniment, Jon Kallmann Stefansson, pour ce magnifique et vibrant livre à la vie, à l'amour, à la mort, qui s'intitule « Ton absence n'est que ténèbres », qui vient de sortir aux éditions Grasset et qui est admirablement traduit de l'islandais par Eric Bourri, plus de 600 pages. Bravo Eric et merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission pour traduire Yon. Merci infiniment à vous deux et on va se quitter avec Jean-Louis Murat, un hymne à l'amour, évidemment. C'est avec « À l'amour » de Jean-Louis Murat que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Eric Bourri pour votre traduction des propos de Yon Kalman-Stefansson. Merci à Yon Kalman-Stefansson. Je rappelle que votre livre, très attendu en France, j'espère que vous le savez, vient juste de sortir et qu'il s'intitule « Ton absence n'est que ténèbres » aux éditions Grasset. Merci à Guillaume Roux qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer et Marie Clément. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka qui va nous emmener dans son voyage musical quotidien après le prochain journal.